Recevons Jean-Pierre Mercier, bonjour.
Bonjour,
porte-parole de Lutte ouvrière et soutien de Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle, et Frédéric Delpech, bonjour, du service politique de TF1 LCI. La guerre en Ukraine nous l'aurait peut-être fait oublier, hein, mais c'est la dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle. Il ne reste plus que 9 jours avant le premier tour. Nathalie Arthaud est en meeting à Lyon ce soir à 19h pour convaincre les électeurs, les indécis. Et la première question que l'on pose en plein conflit en Ukraine, qui a un impact sur la vie des Français, ce conflit, il a des conséquences, à l'heure où, on l'a dit, hein, Vladimir Poutine menace l'Europe de la priver de gaz dès aujourd'hui si les pays importateurs n'ouvrent pas des comptes dans des banques russes. On ne sait pas, hein, si le président russe bluffe, s'il va mettre sa menace à exécution, mais que faire si la Russie nous coupait le gaz du jour au lendemain ?
Bah, c'est là où on voit que cette société devient complètement folle. Évidemment, la guerre en Ukraine est venue s'inviter dans la campagne présidentielle. Et c'est très révélateur de comment tourne cette société, où ce sont les populations qui sont prises en otage dans le jeu, dans le bras de fer que se mènent à la fois les États-Unis contre la Russie, derrière les puissances occidentales contre la Russie, et que ça soit de part et d'autre des frontières, que ça soit la population russe, évidemment la population ukrainienne qui est aujourd'hui sous les bombes, mais aussi la population occidentale. On est pris en otage dans cette guerre économique que se mènent les grandes puissances de ce monde.
Que faire pour soulager le pouvoir d'achat des Français alors que les prix de l'énergie flambent ?
Augmenter les salaires, d'abord et avant tout. La première mesure, c'est d'augmenter les salaires, pas simplement de quelques dizaines d'euros, mais d'augmenter les salaires, les pensions de retraite de plusieurs centaines d'euros. Il est maintenant impossible de continuer à vivre avec en dessous de 2000 euros net par mois. On a vu M. Castex, quand il avait donné son chèque inflation, on s'est rendu compte qu'il y avait 38 millions de personnes en France, 38 millions, qui vivaient avec moins de 2000 euros net par mois. Alors oui, il faut augmenter les salaires. Et puis, il faut copier les patrons. Il faut faire la même chose que ce que font les patrons. Quand les patrons, ils ont les matières premières qui augmentent, ils répercutent ça sur leurs prix. Eh bien, nous, il faut que, quand les prix augmentent à la consommation, il faut que nos salaires, nos pensions de retraite suivent l'augmentation des prix. Ça serait que justice, ça serait légitime, parce que nous, on n'a que notre salaire, que nos pensions de retraite pour vivre. Alors oui, il faut absolument augmenter nos salaires. Et puis, en allant plus loin, on voit là que le débat tourne autour des carburants, de l'augmentation du prix des carburants. Il y a quand même quelqu'un dans ce débat qui se fait pas connaître, qui se fait pas entendre. C'est Total, c'est le trust, alors là, pour le coup, c'est du franco-français, un trust qui est international et qui spécule sur le cours du brut, sur le cours du pétrole, et qui s'en met plein les poches.
Vous parlez des grands patrons, mais ceux qui créent les emplois en grande majorité, ce sont les PME et les TPE. Et comment elles pourraient se permettre de répercuter ces hauts de salaire que vous demandez ?
Alors, premièrement, quand en mai 68, le SMIC a augmenté de 35%, il a augmenté pour tout le monde, y compris pour les petits patrons. Et deuxièmement, cet alibi, cet argument des petits patrons, c'est toujours l'alibi, en fait, pour faire oublier que les grands patrons, les grands donneurs d'ordre, ceux du CAC 40, eux font travailler les petits patrons. Ils les font travailler, en fait, ils les étranglent. Ils les exploitent, ils les étranglent. Si un petit patron ne peut pas payer, forcément, au-dessus de lui, son banquier, son donneur d'ordre, lui, il peut payer. Et pour y voir plus clair, il faudrait ouvrir la comptabilité de ces grands groupes industriels, de ces grands groupes bancaires. Il faudrait voir comment ils se font de l'argent, où est-ce qu'ils se font de l'argent. Il faudrait avoir tous les contrats commerciaux, il faudrait ouvrir toutes les comptabilités. Et ça, il n'y a que les travailleurs qui peuvent le faire, parce qu'ils sont partout. Ils occupent tous les postes dans toutes les entreprises. Et c'est nous qui faisons tourner toute cette société. Oui, il faudrait que les travailleurs mettent leur nez dans la comptabilité des grandes entreprises. Et on verrait qu'il y a de l'argent qui coule à flot. Ça, on le sait, mais on le verrait précisément.
Donc, les grandes entreprises, c'est ce que vous dites aujourd'hui, doivent augmenter les salaires. Tout ça, c'est souvent des négociations assez longues. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces prix à la pompe qui montent ? Est-ce que vous souhaitez un blocage des prix à la pompe du carburant ? Quelles sont les mesures immédiates et concrètes que Nathalie Arthaud pourrait prendre si elle était élue ?
Si elle était élue, Elle appellerait tous les travailleurs à se mettre en grève pour imposer des augmentations de salaire. Vous dites que c'est des négociations extrêmement longues. Ça dépend. Ça dépend du rapport de force. Ça dépend combien on est en grève, combien on est à occuper les usines, les entreprises, combien on est à manifester dans la rue. Et si elle était élue présidente de la République, elle pointerait immédiatement les profits records de Total, ces profiteurs de guerre, ces spéculateurs, et elle défendrait l'idée qu'il faudrait exproprier, qu'il faudrait réquisitionner ces profits et exproprier le groupe Total.
Les consommateurs qui vont chercher leur carburant à la pompe, qu'est-ce que vous leur dites pour eux ? C'est eux, ils ont besoin d'une mesure d'urgence quand même.
Alors s'il faut bloquer les prix, bien sûr qu'il faudrait bloquer les prix. D'abord, il faudrait supprimer la TVA. La TVA qui est un impôt le plus injuste, que vous soyez millionnaire ou avec le SMIC, vous payez le même prix à la pompe à essence. S'il faut bloquer les prix, bien sûr, mais on les bloque à quel niveau ? Il faudrait les bloquer pour que Total diminue ses marges. Parce qu'il faut toujours prendre sur les profits de ces grandes entreprises. C'est quand même eux qui vivent de cette situation, qui l'a créée bien souvent même, y compris, et qui vivent de cette situation, qui spéculent. Et il y a quelqu'un... ces gens-là ne sont jamais pointés du doigt dans cette société. Choqué...
Il y a Yannick Jadot, qui est un concurrent de Nathalie Arthaud, qui justement a ferraillé avec Total pour lui demander au PDG de Total de cesser ses activités en Russie, la même traitée de complicité de crimes de guerre. On ne vous a pas entendu sur ce débat-là. Est-ce que justement Total, qui fait, dites-vous, des bénéfices importants, doit retirer ses activités de Russie ?
Alors vous avez remarqué que Yannick Jadot parle de Total, qu'il faudrait qu'il se retire de Russie. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs pour le pétrole. Il ne le fait pas pour le gaz. Jamais il pointe les bénéfices faramineux qui sont issus de la spéculation en temps de guerre. Et elle est là, la grosse différence. C'est que nous, on est les seuls à cibler les bénéfices. On est les seuls à cibler des entreprises qui spéculent, qui profitent de cette situation de guerre. Et ça, c'est choquant qu'on le pointe pas du doigt, qu'il y ait que nous qui le pointions du doigt. Alors, après, sur le gaz, vous savez, là, on est en train de parler, est-ce qu'il faut se passer du gaz russe ? C'est compliqué, parce que les économies sont tellement imbriquées les unes dans les autres, l'économie russe, ukrainienne, des pays de l'Est, les économies des pays occidentaux sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'on peut plus se passer les uns des autres. L'économie est hyper mondialisée. On en est là. Donc, il est certain que c'est là où il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer au fonctionnement de la société, à l'organisation de la société. Tant que ça sera une société qui sera fondée sur la loi du profit, sur les guerres, sur les crises économiques, qui donnent des cracks boursiers, forcément, nous, mais la population, les travailleurs, on va en payer le prix fort.
Jean-Pierre, merci. Je n'ai toujours pas compris comment vous parvenez à permettre aux entreprises d'augmenter les salaires. Vous dites, je vais aller chercher l'argent chez les grands groupes, mais est-ce que ce sera suffisant ?
Bien sûr que ça sera suffisant.
Comment vous l'avez évalué ?
Écoutez, je travaille dans un grand groupe industriel qui fabrique des automobiles, Stellantis, PSA. Avec ce PSA, 13,4 milliards de bénéfices pour l'année 2021. On est en pleine crise économique. On est en pleine crise sanitaire. Et le CAC 40 arrive à afficher des bénéfices records de 160 milliards d'euros. Ils sont bien sortis de quelque part, ces bénéfices. Ils sont sortis de notre travail. Et nous, on est payés en dessous de 2000 euros. 38 millions d'entre nous sont payés en dessous de 2000 euros. Moi, mon patron, le PDG, Carlos Tavares, il gagne 52 000 euros. Pas 52 000 euros à l'année, ni au mois, ni à la semaine, par jour. 52 000 euros par jour. Et à nous, on est payés 1500 euros. C'est nous qui coûtons les plus chers. De l'argent, il y en a, ça dégouline de partout. En tout cas, ça s'accumule à un pôle. Oui, il faut prendre sur les profits, il faut prendre sur les marges extraordinaires que se font aujourd'hui les grands groupes industriels du CAC 40 pour payer les salaires, pour payer les retraites, pour payer les allocations.
Puisqu'on parle d'argent, de profit, je voudrais aborder avec vous la polémique McKinsey, hein, après le rapport explosif du Sénat qui souligne le recours massif pendant le quinquennat Macron au cabinet privé pour guider le gouvernement dans ses décisions. On sait que le cabinet McKinsey a été sollicité sur la question de la réforme des retraites, des APL, de la réforme de l'assurance chômage. Au total, les dépenses de conseil des ministères sont passées de 380 millions d'euros en 2018, à près de 900 millions d'euros en 2021. Mais McKinsey ne représente que 1% de ses dépenses. Alors est-ce une fausse polémique ou un scandale d'État ?
C'est d'abord écœurant. Moi, autour de moi, mes camarades de travail sont écœurés de cette révélation. Moi, je suis écœuré, mais je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que c'est le fonctionnement, en réalité, classique d'un gouvernement et d'autres avant, hein, qui se passent des services, qui se rendent des services, ce sont des cabinets parasites qui se goinfrent d'argent public. Et pour donner des conseils à des gouvernements, pour faire en sorte qu'on se serre la ceinture. Voilà, c'est ça qui est quand même en plus extraordinaire. Parce que s'il fallait faire une réforme de l'éducation nationale, une réforme de la santé, de l'hôpital public, nous, on a une solution. Hein. Demandez aux corps enseignants, demandez aux instituteurs, aux professeurs, à tous ceux qui font tourner les collèges, les lycées, les écoles primaires, de leur demander c'est quoi qu'ils ont besoin,
mais
de quoi ils ont
besoin. Mais tout le monde vous répondra, on a besoin d'argent. Il n'y a pas un secteur en France qui vous dira...
On a besoin d'argent, on a besoin d'embauche, on a besoin de matériel pour que l'éducation fonctionne, pour que la santé fonctionne. Regardez dans quel état est l'hôpital public, la santé publique. Si on avait une réforme à demander... À faire, eh ben on demanderait aux corps hospitaliers, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux médecins, à tous ceux qui font tourner les hôpitaux. En fait, il faudrait que ce soit les travailleurs qui dirigent la société. Ce sont eux qui la font fonctionner. Sans les travailleurs, il n'y a aucun fonctionnement.
Est-ce que c'est pas utopique de dire que n'importe qui peut diriger une entreprise À vous entendre, ça paraît extrêmement simple. Mais de la même manière que moi, je serais incapable du jour au lendemain de faire le travail que vous faites, bah, c'est pas sûr que vous pourriez faire mon travail ou diriger une entreprise ou aller à une caisse de supermarché et prendre en charge un client.
Mais moi, je vous demande pas de faire mon travail et je ferai pas votre travail. Maintenant, tous collectivement, on fait fonctionner cette société. Sans nous, on l'a vu pendant le Covid, nous, la société, elle s'arrête. Voilà. Ce qui est utopique, c'est de croire que ceux qui nous dirigent vont nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Quand ce n'est pas un krach boursier, c'est une crise sanitaire, et la gestion de la crise sanitaire, on pourra en parler pendant des heures. Et quand ce n'est pas une crise sanitaire, c'est la guerre tout court. La guerre économique donne la guerre militaire. Ce qui serait utopique, ça serait de croire que les uns ou les autres de politiciens, ils vont s'opposer à ce mur de l'argent, ils vont s'opposer aux capitalistes, à cette grande bourgeoisie qui fonctionne uniquement sur le profit, pour son profit. Ça, c'est utopique. On voit aujourd'hui que la société, elle part à volo, qu'elle va dans le mur. Alors, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que ce soit les travailleurs qui prennent les rênes, qui prennent les commandes de cette société.
Ce qu'on n'a pas bien compris sur cette affaire des cabinets de conseil et de McKinsey, c'est que vous êtes hostile à l'utilisation de cabinets de conseil privés qui viennent donner des instructions ou des préconisations dans le service public, dans les ministères, ou vous êtes tout simplement hostile à une politique qui viserait à faire des économies. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Est-ce que c'est l'appel à des cabinets de conseil privés ou les politiques qui sont menées d'économies, notamment dans un certain nombre de ministères, quand on sait aussi que la dette de la France a atteint des niveaux records ?
Alors... Deux questions, deux réponses. Oui, hostile à faire appel à des cabinets privés qui fonctionnent sur une logique de restriction financière pour les classes populaires. Voilà, je ne vois pas le cabinet McKinsey dire qu'il va falloir couper les aides publiques que l'on donne sans aucun contrôle à l'ensemble des grands groupes du CAC 40. Ça, c'est une évidence. Et encore parce qu'on a la ressource. Et la ressource, ce n'est pas les hauts fonctionnaires, comme j'entends chez Mélenchon ou chez Roussel. Ce n'est pas ça, la ressource. La ressource, ce sont ceux qui font fonctionner, ceux qui ont les mains dans le cambouis. Ce sont les travailleurs, ce sont les travailleurs du service public, mais aussi les travailleurs du privé. C'est eux la vraie ressource. C'est eux qui savent comment ça fonctionne parce qu'ils travaillent tous les jours. Après, il y a des économies à faire, ça c'est certain. Des économies, la première économie qu'il faudrait faire, ça serait ces dizaines de milliards que l'État donne, le fameux quoi qu'il en coûte de Macron, donne à fonds perdu aux entreprises du CAC 40. Oui, là, ça serait à couper net, et puis il y aurait des économies à faire sur le budget de la défense.
Il y a quand même un point de votre programme qui suscite beaucoup d'interrogations chez notamment ceux qui ne votent pas pour Nathalie Arthaud, ce sont les réquisitions. Vous êtes favorable à des réquisitions, alors réquisitions d'entreprises, mais aussi réquisitions de logements pour étendre le parc social. C'est ce que préconise la candidate de Lutte ouvrière. Est-ce que ces réquisitions sont encore d'actualité aujourd'hui en France au XXIe siècle? Est-ce que ce n'est pas un langage un peu d'un autre temps? Comment vous expliquez aux Français qu'on puisse faire des réquisitions?
Elles sont plus que vitales, ces réquisitions. Plus que vitales. D'abord, les réquisitions sur les logements vides, c'est la loi. Ça existe. Elle n'est jamais appliquée, cette loi.
Si c'est un propriétaire privé, par exemple.
Oui, mais qui a des logements vides. C'est ça l'aberration de cette société et de ce système. Vous pouvez avoir des propriétaires, et souvent ce sont des grands groupes industriels qui ont un parc immobilier qui est complètement vide, mais ils préfèrent le laisser vide plutôt que de le louer. Oui, il faudrait réquisitionner tous ces logements vides pour les donner à tous ceux qui n'ont pas de logement ou qui ont des logements insalubres, d'abord et avant tout.
On exproprie alors les propriétaires.
Bien sûr. Parce que je suis un humain. Je raisonne logiquement. Quand je vois quelqu'un qui est dans la rue ou qui a un mal logé et qui a un parc de logements vide, oui, moi, ça me paraît quelque chose de normal, de logique, de réquisitionner ce logement et puis de le louer.
Est-ce que ce n'est pas du vol de prendre un bien parce que vous estimez qu'il n'est pas assez bien utilisé par son propriétaire?
Ce n'est pas du vol, c'est une mesure de salut public. Est-ce que Total, c'est pas du vol qu'il fait là quand il fait une spéculation et qui prend profit de la guerre en Ukraine pour augmenter encore ses marges?
Ça, c'est pas du vol. Total, et après vous comparez quelqu'un dont le logement est vide, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais qui l'a payé, à qui on prendrait son logement pour accueillir quelqu'un?
Mais je vous ai répondu que, dans mon argumentation, je laissais de côté le petit propriétaire qui a son petit studio qui est vacant, et puis ces grands parcs immobiliers qui sont possédés par des grands groupes industriels ou des grands groupes bancaires ou des grands groupes immobiliers. Donc je fais déjà une différence. Maintenant. Oui, le vol, c'est eux qui volent. C'est eux qui volent. Après, pour exproprier les entreprises, bien sûr qu'il faudrait exproprier. Vous comprenez, quand vous avez une grande entreprise qui bénéficie de milliards d'aides publiques et qui continue à licencier, est-ce que ça ne serait pas logique? Est-ce que ça ne serait pas une mesure sociale, humaine, légitime de l'exproprier parce qu'elle licencie alors qu'elle fait des bénéfices? Bien sûr, et une expropriation sans indemnité ni rachat. C'est radical. Oui, mais quand vous êtes licencié, c'est extrêmement radical. Et vous vous retrouvez dans la rue. Donc, à un moment donné, nous, de toute façon, notre logiciel, c'est d'abord et avant tout les conditions de vie des travailleurs, des classes populaires qui doivent passer avant les profits, les marges de ces grands groupes industriels du CAC 40.
Jean-Pierre Mercier, à en croire les sondages, les classes populaires, pour l'instant, elles préfèrent se tourner vers le Rassemblement national. C'est ce qui inquiète votre candidate, Nathalie Arthaud. Elle dit de cette extrême droite, ce nationalisme qui s'exprime dans cette campagne, c'est du poison pour le monde du travail. Donc elle s'inquiète et elle dénonce cette montée des idées d'extrême droite. Mais à qui la faute si les classes populaires, les ouvriers préfèrent s'abstenir ou voter Marine Le Pen plutôt que Nathalie Arthaud?
D'abord, beaucoup dans les classes populaires s'abstiennent et là vont sans doute encore s'abstenir. Maintenant, à qui la faute quand on voit qu'on a une extrême droite maintenant entre Zemmour et Le Pen à plus de 30%? C'est la faute à la gauche au gouvernement. À chaque fois que la gauche a été au gouvernement, ça a commencé par Lionel Jospin, qui n'a pas été au second tour 2002, moi je m'en souviens, c'était Le Pen père contre Chirac, c'était la conséquence de la politique de la gauche plurielle, où alors là, on avait toutes les composantes de la gauche, parti socialiste, parti communiste, on avait même Mélenchon qui était à ce gouvernement, qui a fait une politique ultra-patronale, et à chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, ça a été le meilleur carburant pour l'extrême droite. Alors, la meilleure manière de...
Jean-Luc Mélenchon, meilleur carburant aussi, vous le mettez dans le même sac que la gauche de gouvernement, Jean-Luc Mélenchon?
En tout cas, quand il a participé au gouvernement Jospin de la gauche plurielle, écoutez, c'est là où, pour la première fois, la gauche n'a pas été sélectionnée au deuxième tour. Donc, il faut bien... Alors, c'est vrai qu'à la gauche, personne n'a tiré les leçons de cet échec, de ce fiasco de cette politique gouvernementale. Mais la meilleure façon de combattre les idées du Rassemblement national, les idées nationalistes, les idées de division du monde du travail, où leur objectif, c'est faire en sorte que les travailleurs, les pauvres, se battent les uns contre les autres pour faire oublier qu'il y a vraiment une grande bourgeoisie qui s'en met plein les poches, bah c'est de défendre des idées de lutte de classe, des idées de combat social.
Pour revenir sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce que si Nathalie Arthaud n'est pas qualifiée pour le deuxième tour, au vu des sondages, ça semble être le cas, et que Jean-Luc Mélenchon éventuellement puisse se qualifier, il peut s'en approcher, est-ce que vous pourriez appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon à un deuxième tour hypothétique ?
Alors, on peut faire toutes les hypothèses du deuxième tour. Je vais vous répondre une réponse que vous devez comprendre. Moi, je me place aujourd'hui sur le premier tour. On verra le 10 avril ce qu'on fera. Si
en
c'est
général,
Le Pen contre Macron.
En général, vous donnez pas de consigne de vote pour une élection présidentielle.
Ça dépend.
C'est rare,
hein. Pour les deux dernières, oui. Et je suis très fier d'avoir voté blanc contre Le Pen Chirac. Quand c'est l'extrême droite contre la droite, on va dire classique, oui.
Si c'est Le Pen-Macron au second tour, ce sera blanc pour vous ?
On verra le 10 avril. On verra le 10 avril au soir les résultats et puis ce que pensent aussi les travailleurs, l'état d'esprit. Mais en tout état de cause, je redis, la seule perspective pour la seule solution pour combattre les idées de l'extrême droite, c'est de défendre des idées de combat social. Vous savez, quand il y a des grèves, c'est là où les idées d'extrême droite reculent, où ce poison nationaliste de division
donc
recule.
Donc, placé dans le troisième tour social, ce qu'on appelle l'appel à la grève, à la manifestation, après les élections. En fait, pour vous, c'est ça le rendez-vous. Ce n'est pas véritablement le deuxième tour, c'est le troisième tour pour vous.
Oui, si vous voulez, c'est un rendez-vous quotidien en fait. Hein. Vous savez, nous, ce discours, ces idées que l'on défend dans les élections et notamment là aujourd'hui dans la campagne des présidentielles, ce sont des idées qu'on défend tous les jours de l'année. On n'a pas un discours spécialement pour les élections et puis après on change de discours pendant le reste de l'année.
Oui, il y a de la cohérence.
Il y a de la cohérence. Et ce sont des idées qu'on expliquera dimanche, le 3 avril, au Zénith de Paris où il y aura le grand meeting de fin de campagne pour Lutte Ouvrière et Nathalie Arthaud.
Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte Ouvrière et soutien de Nathalie Arthaud.